Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast, On s'aime fort, numéro, oula, je sais plus, Eric, on ne compte plus.
Non, on doit être 200, non, peut-être pas encore.
200 ? Ouais, au moins, ouais, minimum, ouais. Depuis 2019, bon, ça fait des bêtises qu'on raconte. Salut mon cher Eric.
Salut Brice.
Comment va ?
Ça va, très bien.
Ça caille, hein, dis donc.
Oui, mais enfin, comme ça, au moins enfin, les feuilles tombent bien.
Oui, alors là, c'est radical. Hein. Autant l'a attendu ton jour 1 sur le calendrier d'Eric.
Ouais.
On rappelle, hein, c'est le jour où il tombe le plus de feuilles. Autant là, en une semaine, c'est rectifié.
Il ouais, c'est, en a quelques-unes. Ça a mis 3 semaines à chuter un peu. Et là, en une semaine, tout est par terre. Là.
C'est ça. Donc, ça fait la joie et le bonheur de bon nombre d'entre vous qui attendez évidemment ces feuilles pour couvrir votre potager, couvrir vos massifs et puis couvrir aussi le compost, le tas de compost, le compostier, Eric.
On complètement. Ouais, même les jardins en hauteur. Hein, j'ai fait un atelier jeudi dernier. Il y a eu l'installation de bacs potagers bon, assez grands. Voilà, dans un jardin de biodiversité et à destination des classes, parce que cet espace servira pour ce qu'on appelle les classes du dehors. Parce que des fois, les cours d'école n'ont pas la possibilité, les cours sont trop petites. Et aujourd'hui, dans la pédagogie, quand on veut faire les classes du dehors, bah, des fois, il faut peut-être faire la classe du dehors ailleurs. Et justement, là, il y a eu des bacs potagers, ils ont été remplis de terre, de terre de bonne qualité. Et ont été mis des feuilles dessus, justement pour protéger et pour éviter l'intrusion des chats. Ils ont mis pour l'instant et pour tout l'hiver, mais il y a eu quand même ces 10 à 15 cm de feuilles dessus, un filet, voilà, assez rigide, comme ça il n'y a pas les chats qui viennent gratter dedans.
Donc si on résume, on est plutôt et sur du paillage et sur de la protection, mais sur de la protection active anti-chat, on va dire.
Bah là, après, oui, quand on met le filet, c'est quand même intéressant parce que je sais que quand il y a des nouveaux territoires comme ça qui sont installés, et notamment ça, je le conseille pour les cours d'école, parce que j'ai eu le cas plusieurs fois, dès qu'il y a un nouveau territoire qui est fait, hein, c'est-à-dire un aménagement, un nouvel aménagement, et surtout quand il est sympa, hein, quand on fait des habitats comme ça, bon, bah, il y a les chats du quartier, les chats du coin qui vont renifler et voir ce qui se passe, et ça se passe souvent par le derrière. Quoi.
Quelle est cette expression, Eric ?
C'est fou à dire. Hein. Quand on fait un nouveau territoire, il y a toujours la petite crotte qui va bien. Quand on fait des bacs jardiniers, où on met par exemple du broyat dans des cours ou dans des espaces pour rendre perméable un sol qui était avant soit bitumé ou empiré.
C'est la fête du chat, quoi. C'est un petit peu décourageant certains. Alors, je sais, on va rentrer dans un dossier épineux, Eric, mais je sais que ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'on fait
ça. Non, bien sûr, l'idéal, c'est de, quand vous mettez le filet, c'est d'attraper le chat et de le coincer sous le filet pendant 3 mois.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ah, fallait pas dire ça.
Pardon, non, c'était pas ça. Surtout pas. Oula, arrête, on va avoir toutes les fondations. Non, pas du tout. Non, mais blague à part, parce que tu dis, c'est un sujet épineux. Oui. Souvent, je te tends la perche parce que tu nous dis souvent que faire avec les déchets de rosier, par exemple, quand je les taille. Et tu nous dis des fois, quand il y a des plates-bandes, on en met quelques-uns, on fait un petit treillis de rosier et le chat qui s'y pique une fois, il n'y retournera pas.
Oui, c'est
et
ça.
C'est une solution assez naturelle plutôt que de mettre des répulsifs chimiques sur ces plates-bandes.
Ouais,
c'est ça ce que je voulais dire.
Oui, faut pas oublier qu'à un moment, on mettait de l'antilimace pour avoir moins de chats qu'il y a. Parce que comme dans l'antilimace, il y avait un répulsif chat, on mettait de l'antilimace qui n'était pas très bon. Et donc, en plus, c'était ce côté répulsif. Comme en ce moment, on est dans la taille des rosiers, mais pas forcément une taille de floraison. Hein, donc, c'est pas sur les yeux. Là, on dégage un peu ce qui est trop.
On rabat, quoi.
Dans le tempo, on peut en profiter. Ces grandes tiges épineuses ou quand on va nettoyer peut-être son églantier, par exemple, qui font des fois des très longues tiges épineuses, je vous invite à ne pas les couper en petits morceaux, mais plutôt de les mettre comme ça en croisillon sur un espace que vous souhaitez aménagé et qu'il soit nourricier pour éviter que les chats aillent trop gratter dessus, quoi.
Donc ça, d'un déchet, on en fait quelque chose et un truc utile, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire à l'instant.
Ouais.
On récupère pour éviter justement d'avoir... on va dire des situations un peu problématiques, même si bien sûr on aime les chats, on aime les chiens, on aime tout le monde, on aime les voisins, on aime.
Moi personnellement, plus ou moins quoi.
Oui, toi j'avais compris.
Après quand il y a trop de chats, il y a trop de chats quoi. Voilà, après il y a plus de bio. Non mais c'est des fois, il faut que les propriétaires des chats se rendent compte que au niveau biodiversité, oiseaux et compagnie, c'est un peu compliqué quoi. Hein. Donc voilà, on peut satisfaire d'un chat, mais à partir du 15e, faut se poser la question. Voilà.
Alors, on va citer un grand penseur en la personne de Willy Schren, qui est patron de la Fédération des chats. Je pensais jamais citer effectivement Willy Schren dans ce podcast, mais il y a quelques mois, il a fait une sortie sur les chats en disant « Oui, mais les chats, on dit les chasseurs tuent de la biodiversité, mais les chats, voilà. » Tout le monde lui est tombé dessus. Je suis anti-chasse à fond. Vous n'avez même pas idée. Je pense, Eric, que ce n'est pas forcément ce que tu préfères non plus.
Mais non, mais bon, après, comme dit…
Pour le coup, il avait raison.
Ouais, voilà, mais c'est vrai, hein. Je veux dire que les gens qui s'occupent pas de leur chat, un chat va vite, repart vite à l'état sauvage. Et puis s'il y avait que des chats sauvages, vraiment le vrai chat sauvage, ça poserait aucun problème. Je dis au contraire, hein, ça permettrait de limiter des fois des populations trop importantes de tel ou tel gibier, notamment herbivore. Mais un chat citadin qui revient à la vie sauvage, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, voilà.
Et pour le coup, pour terminer cette parenthèse autour, cette parenthèse féline, il était évident aujourd'hui, et on le sait, on estime à peu près, hein, moi j'avais les chiffres qui circulaient, c'était à peu près 14-15 millions de chats domestiques, et autant visiblement de chats sauvages, semi-sauvages, à moitié abandonnés. Et on sait que dans certains quartiers, c'est un vrai problème sanitaire aussi, parce qu'il n'y a pas d'entretien, les chats ne sont pas entretenus. Et après, effectivement, tu parlais sur la biodiversité, quand tu as un chat qui vient de choper une mésange et que tu es content parce que tu as vu deux mésanges dans l'année, c'est sûr que c'est un vrai problème. Donc nourrissez vos chats, et des fois il y a aussi des moyens de protéger, hein. Moi je me souviens, mon grand-père, il mettait des espèces de cages autour des troncs pour éviter justement que les chats viennent servir dans les nichoirs qui étaient situés plus au-dessus. Il y a peut-être de l'idée là aussi.
Oui, et puis après, ça évite. J'avais rencontré il n'y a pas si longtemps que ça une association qui récupère justement ces chats, hein, sans les tuer.
Oui, oui.
Mais pas forcément en les récupérant, mais sans nos occupants et justement de les stériliser.
De les stériliser, tout à fait.
Après, c'est des zones de nourrissage qu'on peut faire dans des endroits. Ils sont présents, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut pas. Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, entre guillemets, hein, non plus. Donc, quand ils sont à l'état sauvage, ça provoque un peu de. Voilà.
On est d'accord. Un tout petit clin d'œil. On passera bien sûr à vos questions. Elles sont nombreuses, hein, sur contact@monjardinbio.com. Tiens, juste Mickaël qui vient de nous partager ça sur Instagram. Merci à vous deux. Chaque dimanche matin, un bon café en vous écoutant depuis le jardin. Et le message est passé. Mickaël, merci en tout cas pour votre fidélité. Voilà, on voulait vous citer là en direct, puisque je viens à l'instant de recevoir le message de Mickaël. Eric, après un petit tour au tempo rapidement, tu vas nous parler de rajeunissement.
De taille fruitière.
De taille fruitière, je croyais pour nous.
De rajeunissement aussi, taille d'entretien surtout, hein, faut bien s'entretenir.
Et fructifier,
voilà. Donc le principe, c'est que là, je viens de commencer les formations techniques. Non pas avec les particuliers, mais avec les agents techniques, notamment. Et là, c'était sur de la taille fruitière. Donc, je profitais de ce rendez-vous du 20 et 21 novembre que j'ai eu avec une équipe de 18 agents d'un territoire en Alsace. Et je fais des cours de taille pour eux, pour montrer aussi que dans les communes, on prend soin maintenant de former les agents pour tout ce qui est ce qu'on appelle le ville ou la village nourricière. Et notamment la taille fruitière, hein, dont fait partie, que ce soit les petits fruits ou les arbres un peu plus grands. Et c'est pour ça que je faisais justement le lien avec aujourd'hui, pour expliquer que si vous êtes agent, si vous êtes, je sais pas, élu d'une commune, agent technique, n'oubliez pas que vous avez des formations que vous pouvez monter grâce au CNFPT, hein, qui est l'organisme de formation officiel, entre guillemets. Et il y a possibilité pendant un ou deux, voire trois jours, de faire des formations de taille qui sont bien nécessaires. Alors je dis toujours, ça sert pour la commune, mais ça sert aussi à titre individuel. Hein, quand vous avez fait une formation à titre professionnel, ben, ça peut aussi servir pour vous et votre famille après, quand vous revenez dans votre cercle familial. Donc là, je vais parler, voilà, parce qu'on a fait les trois tailles, hein, sur des variétés, je dirais, plutôt plein vent, c'est-à-dire avec un tronc, pour faire simple, hein, on est plutôt dans le verger plein vent que piéton. Et là, on est sur la taille de formation avec des jeunes sujets. Taille d'entretien, c'est des sujets qui ont un certain âge, et donc le but du jeu, la taille d'entretien, c'est un fruitier, son objectif pour le jardinier, c'est qu'il fasse des fruits, donc c'est un peu une taille de fructification. Et enfin, quand on le trouve sur des sujets un peu plus âgés, c'est de dire, bah, comme ils sont un peu dépérissants, où ils commencent à être, hein, peut-être qu'ils ont été oubliés aussi au niveau de l'entretien, parce que je rappelle que sur les arbres fruitiers, il faut tailler tous les ans, alors que souvent les arbres, je dis, bah, on ne taille pas, mais là, taille fruitier, voilà. Et là, de tailler de taille de rajeunissement, c'est-à-dire de favoriser des rameaux pour qu'ils puissent produire.
Bien, ceci étant dit, un petit retour du côté du tempo au jardin, on bouture, oui, on repique encore, voilà, si on peut, mais bon, ça a commencé,
ouais, à c'est à peu près, quoi, voilà, ça fait 3 semaines que je vous raconte ça. La seule, ouais, différence, c'est qu'avant, c'était plutôt si le sol est gorgé d'eau, on ne fait rien. Et là, s'il, ouais, commence à être gelé.
Mais c'est ça.
Voilà, parce que ça peut, dans certains secteurs, voilà, dès qu'on va commencer à monter au-delà des 500 mètres, il peut y avoir maintenant un sol qui est plus gelé. Alors là, on bouture rien du tout. Je dirais même, si vous les bouturez à partir de sujets, petit par groseillers, cassissiers, que vous voulez faites de la taille et vous voulez greffer, bouturer, donc multiplier, plutôt tailler en mars, voilà, si à cette période-là dans votre secteur le sol n'est pas gelé, et vous taillez à ce moment-là, et puis vous bouturez tout de suite, bien que ce serait plutôt le faire là, mais si le sol est gelé, on ne peut pas bouturer, on ne peut pas mettre une tige, je dirais, convient de couper dans un sol gelé. Alors, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire le trou, c'est le fait que quand vous allez mettre la tige dans le sol, le gros souci, c'est que la terre, elle sera, gelée, donc elle laissera des zones d'air. Et le principe, c'est quand on met une bouture, il faut qu'il y ait le maximum de contact de terre pour éviter qu'il y ait trop d'air autour du rameau qui risquerait de le faire mourir. Donc c'est ça un petit peu le principe, quoi.
En résumé, alors petite astuce conso aussi, hein, tu dis pour la dernière fois repiquer les bulbes à floraison printanière dans ton tempo du jardin, allez voir chez les pépiniéristes.
Oui, là c'est vraiment pas cher. Hein,
ouais, c'est pas cher. Ouais.
Là j'ai vu des bulbes qui défient tout. Alors des fois même, là ils sont peut-être pas de super bonne qualité parce que des fois c'est les derniers, mais bon, vu les prix, des fois c'est même casser les prix. Il y en a même des pépiniéristes qui vous les offrent, hein, c'est-à-dire que. Ouais. Quand vous faites un achat, vous repartez avec votre bulle de restant de tulipe ou compagnie. Voilà. Et puis
aussi, ça évite de les jeter, quoi.
Voilà.
Aussi.
Et aller voir des fois dans les magasins de déstockage. Voilà. Je ne donnerai pas des marques, mais allez-y, parce que des fois, avant, parce que de toute façon, ils ne s'en occupent pas. Donc, de toute façon, ils vont crever, ils vont être jetés. Bah, des fois, là-dedans, à 50 centimes, moins d'un euro, vous trouvez des sachets. Voilà. En sachant qu'il faut privilégier les bonnes qualités et de le prévoir avant. Mais voilà, quitte à être jeté, moi je dis toujours, hein, autant d'aller voir ce qui se passe. Hein.
Oui, et puis si t'en as un sur quatre qui vient pas, c'est pas très grave, quoi.
Voilà, c'est ça.
Au pire. Rappelle-moi comment on enterre le bulbe.
Alors ça, même si on se connaît depuis un bout de temps, je t'en prie. J'explique pas toujours comme ça comment
non,
on enterre le
s'il
bulbe.
S'il te plaît.
Mais faut simplement prendre la grandeur de son bulbe. Et regarder à peu près, et de voir à peu près 4-5, et on met une profondeur de 4 fois la grandeur du bulbe, quoi.
Ok, donc ça veut dire les petites, comme les petites narcisses, ouais, c'est vraiment pas profond.
Oui, voilà, c'est. Voilà.
Mais les tulipes, c'est très profond, ça veut dire ça.
Voilà, c'est plus intéressant, ouais, de mettre au profond parce que la terre qui va être avant, entre le bulbe et la sortie, va permettre de maintenir la tige. Des fois, on dit, tiens, j'ai mis des bulbes, ils tiennent
pas. Ah oui, mais tout verse, c'est ça?
Tout verse, okay. Parce que des fois, ils sont plantés trop près. C'est un petit peu comme dans les pots, quand on vous offre pour Noël, par exemple, des narcisses en fleurs déjà. Mm-hmm. Comme ils sont et là, c'est normal qu'ils soient comme ça, parce qu'il faut qu'ils sortent rapidement. Souvent, il y a une petite collerette qui permet de tenir les feuilles, parce que sinon, ça verse, quoi.
Donc enterrer là où il faut, là commencer selon les conseils effectivement d'Eric, et puis comme c'est marqué sur le paquet aussi, mais ça a l'intérêt, voilà, et oui, ça va quand même venir, hein, clairement, oui, même oui, si oui, après non, on rajoute des feuilles, de la paille, etc., ça sortira quand même,
bien sûr, et puis et surtout le respecter la profondeur fait que certaines plantes vont venir plus tard, Parce que on sait très bien que dès que ça va se réchauffer, ben les feuilles vont apparaître quoi. Hein.
Oui, en gros, on a une première quinzaine de février très douce. C'est pas la peine de voir les narcisses tout de suite quoi.
Non, c'est non, ça, voilà, c'est ça.
Voilà. Si on dit ça comme ça. Eric, est-ce qu'on a vu globalement?
Oui, globalement. Alors chose, après, hein. Comme dit, là on avait dit que voilà, bon c'est la dernière fois, on va vraiment parler par rapport à voilà la Lune et compagnie. Hein. Maintenant, ça sera ce que je vous présente là globalement à part les bulbes. Et déterrer les dahlias, le reste ça sera bah voilà on fait de la plantation, on fait plutôt voilà de la taille, on fait de l'aménagement, ouais. Voilà donc ça va se résumer à ça, enfin qui est déjà pas mal.
Bien, ce qui est déjà effectivement pas mal. Mon cher Eric, on va passer évidemment à la. Pardon, j'attends. On passe évidemment à notre partie préférée, c'est l'interactivité avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Et je te propose de commencer par Freddy en Ile-de-France. Je vous écoute assidûment depuis le 8 octobre 2021 et je vous adore. Merci pour tous vos conseils, les messages forts que vous passez, vos réponses systématiques aux auditeurs. Un podcast de haute qualité qui mérite à être plus connu, que je ne rate jamais. Et ben, partagez, merci. partagez. Faites comme Mickaël sur les réseaux sociaux, partagez vos préférés. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, alors voici quelques questions en vrac et retour d'expérience en cette fin d'année 2023, année une nouvelle fois inhabituelle. Première question, le liseron, loin de mon jardin, durant le mois pluvieux du mois d'août. Le liseron, il est en Ile-de-France, hein, je précise. Ouais. Le liseron a envahi mon espace courge et j'ai préféré ne rien enlever à mon tour car le risque de casser des tiges était trop important et en observant bien, il a fait office de paillage en conservant beaucoup d'humidité durant les chaleurs qui ont suivi. Ouais. Quelle est votre solution pour en avoir le moins possible? Je mets en généralement des cartons recouverts de feuilles en hiver, oui. Mais il revient tous les ans.
Oui, il revient tous les ans. C'est normal.
Est-ce que justement le paillage le surbooste?
Alors le principe, c'est que il y a deux remarques qui sont intéressantes dans les censés propos de l'auditeur. C'est que bah, en fin de compte, ça fait un paillage. Alors si on a des légumes, fruits type courge et on laisse le liseron, bon, il n'y a pas vraiment une concurrence quoi. Ça fait un ensemble. Donc voilà. Si on a l'habitude de toujours mettre les courges à cet endroit-là, ben voilà, on peut limiter le liseron en l'arrachant pour pas qu'il fasse trop de fleurs. Puis après, bah tant pis quoi. Hein, voilà. Le fait de mettre des cartons, bah, va permettre de limiter, mais faut pas se leurrer, ça va revenir. Hein. Okay. Même si on recrée une litière, faut pas oublier que 99,9% du sol correspond à une terre de liseron. Hein.
Ouais, donc en gros, il se met partout quoi.
Bah il se met partout. Voilà, c'est pour ça que. Faut plutôt jouer sur la notion de concurrence ou pas de concurrence. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui me disent j'en ai plein mon gazon. Ok, mais une fois que c'est tondu, c'est pas grave, quoi. Non mais
oui, non mais on est d'accord. Et alors pour le coup, le liseron qui fleurit, c'est un nid à abeilles. Hein,
oui, bien sûr. Voilà.
C'est magnifique et c'est très beau.
C'est très beau. Très voilà. Belles. Après, bien sûr, on va pas comparer ça avec des hippomées quand même. Mais je veux dire, après, sur un sol, par exemple, c'est un sol voilà limoneux, argileux, limoneux surtout. Si vous avez dans votre gazon, bah c'est sûr qu'il va ramper, il sera là au détriment peut-être des graminées. Mais bah voilà, après au moins il est présent, on peut rien y faire à moins de l'enlever à chaque fois avec une gouge. Mais bon, c'est un travail de fou. C'est plus déjà les gens ils ont du mal à enlever les pissenlits à la gouge. Alors je parle pas du liseron.
On est d'accord.
Voilà. Alors après c'est plutôt une histoire de concurrence et puis au jardin, bah des fois ça va aussi vite de l'arracher ou de prendre une houlette. Hein. Je rappelle la houlette c'est la petite pelle. Hein. Qui va à 15-20 cm de profondeur facilement. Là, on en tire un peu, mais si on en a, on en a. Quoi.
Donc c'est compliqué, Freddy, oui. Hein, en gros, c'est ce qui.
Oui. Bon. Voilà, le fait de mettre des cartons et notamment les courges, bah, ça permet de temporiser pendant un certain temps, mais dès que. Surtout qu'on a des. Comme il disait, il précisait au début, c'est qu'on a des années atypiques. En principe, il n'aurait jamais dû repousser comme il a repoussé au mois de fin septembre-octobre. Quoi.
Bien sûr, parce qu'on a une énormément
Là, on est au printemps,
de chaleur et voilà,
on
est au printemps. Deuxième question, oui, non, juste avant sur le liseron, tu disais ça fait un super, ça peut faire un super paillage et c'est ce que Freddy nous dit.
Oui.
Retour d'expérience, moi je disais sur les oignons effectivement et c'est vrai que au final c'est pas très grave. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence.
Oui.
Mais par contre sur les choux. Ça c'est pareil, à partir du moment où tu donnes un peu à manger, c'est pas très grave dans
le liseron. Le seul problème sur les oignons, enfin tout ce qui est oignons, ail, échalotes, c'est que souvent, quand il y en a beaucoup, on veut l'arracher.
On fait de la casse, c'est ça.
On fait de la casse.
Ouais.
Alors des fois, quand c'est comme ça, il faut pas le tirer, entre guillemets, il faut plutôt le prendre entre les oignons, le déterrer à cet endroit-là et le laisser sécher sur les oignons.
Donc sinon, de faire un paillage, oui, parce que sinon tu t'en sors plus, quoi.
Après, sinon, quand on va tirer, on va tout couper les tiges des oignons ou de l'ail. L'oignon, c'est terrible, hein, ça coupe d'un seul coup si on arrache, quoi.
Les haies, j'ai appris grâce à vous qu'il ne fallait pas tailler ces haies d'avril à août. J'ai une haie diversifiée, fortitia, laurier, abélia, minepertuis, etc. Et je taille donc fur et à mesure et, des fins de floraison. Seul mon problème, cette année, beaucoup sont restés en fleurs et avec la pluie, j'ai pas taillé grand-chose en automne. Est-ce trop tard?
Oui.
Dois-je attendre le printemps ou est-ce que c'est possible de tailler en hiver?
Oui, on peut tailler en hiver toutes les arbres à floraison printanière, sauf qu'on a la moitié des fleurs, quoi.
Bon, donc on attend.
C'est pour ça que souvent, ce que je conseille pour ceux qui ne voilà, qui veulent pas fignoler avec les fameuses tailles, voilà. D'ailleurs, si vous voulez avoir plein d'enseignements, je vous invite à lire les bouquins de M. Prieur, qui est vraiment c'est du très haut de gamme pour connaître comment il faut bien tailler les arbres d'ornement. Vraiment, c'est super. Donc, je rappelle M. Prieur. La seule chose, c'est pour que des fois, ceux qui sont un peu l'âme, un peu vagabonde sur la haie champêtre, il y a une chose qui est très simple, c'est de laisser pousser, voilà, et à un moment on dit tiens ça prend trop de place et on peut couper à ras au bout de 3, 5, 6, 7 ans, le 6, 7 ans c'est mieux, et comme ça on revient à zéro, en plein hiver. Bon alors, c'est vrai que sur ces plantes qu'on a taillées et surtout celles à floraison printanière, il n'y aura pas de fleurs, mais c'est qu'une année, et vous n'êtes pas forcé, si vous avez deux forsythias, de le faire par exemple tous les deux en même temps, vous pouvez le décaler d'une année, comme ça sur 5, 6 ans où c'est merveilleux, bah, vous en avez une qui est sans fleurs. C'est pas très grave.
Et ainsi effectivement.
Et voilà, c'est beaucoup plus facile. On rajeunit à chaque fois l'arbre. Alors bien sûr, bien vérifier par rapport à l'arbuste que vous avez, qu'il soit plutôt à feuilles ou plutôt à fleurs, de voir si le recépage est possible. Voilà. Mais franchement, si c'est des types basitones qui partent de la base, il y a pas de souci.
Troisième retour d'expérience, la serre. J'ai une serre de chez Jardin Couvert, donc c'est un site qui vend des serres, avec des arceaux de 16 mm de diamètre, des pieds et une bâche enterrée à 40 cm. Je la recommande vivement aux auditeurs qui sont à la recherche d'un bon produit. Bon, ça c'est fait. Freddy, on vend aussi des serres sur notre site. 3 ans de bon et loyer. Vous voyez, il n'y a pas de filtre. 3 ans et bon loyer au service avec juste un nettoyage de la bâche une fois par an. Vous parlez de plus en plus des serres et c'est tant mieux. Pour ma part, je mets environ 150 litres d'eau de récup tous les mois d'automne et d'hiver et les résultats sont plutôt bons car il y a beaucoup de vie lorsqu'on soulève le paillage de foin et de feuilles. C'est même plutôt l'inverse en été. Elle est plus sèche car le goutte à goutte micro sointant que j'utilise n'humidifie pas autant.
Oui.
Ça, c'est un retour d'expérience.
Oui, c'est pour ça que l'intérêt, c'est de toujours, aux périodes printanières et automnales, s'il y a possibilité de mettre de la flotte, ça permet de
réactiver, quoi.
De réactiver l'ensemble, ouais. Et ne pas oublier que même l'hiver, on peut pailler sa serre, quoi, hein, comme si on avait une litière. Et je dirais, comme ça ne pleut pas au fur et à mesure, autant que dans cette serre, ça soit couvert, parce qu'au moins, quand on a arrosé d'une manière abondante, il y a un maximum d'eau qui reste, quoi.
Les carottes et le gel, faut-il vraiment cueillir toutes les carottes lorsque le gel arrive?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des carottes qui résistent bien, il y en a d'autres, c'est pas top top, hein. C'est pour ça qu'il y a des carottes d'hiver et des carottes d'été ou d'automne. Alors bien sûr, l'idéal c'est quand même de les sortir, hein, parce que quand il fait vraiment trop de gel et que ça dure trop longtemps, la carotte ne résiste pas. Ou quand vous avez l'impression d'avoir une carotte qui est nickel, et quand vous allez la mettre chez vous, elle va vite pourrir parce qu'en réalité, elle va dégeler, quoi.
Ouais.
Donc, l'idéal, c'est alors, soit vous mettez un gros paquet de feuilles dessus. Voilà. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'elle soit à l'air, je dirais.
La carotte, jamais.
Non, jamais. Jamais mettre la carotte à l'air. Et le principe, c'est de remettre une grosse couche de feuilles, soit vous les déterrez sans les nettoyer, sans les laver. Vous posez ça sur une toile de jute avec vous mettez des feuilles, toile de jute, les carottes, les navets, les céleri compagnie, vous remettez une toile de jute et vous mettez plein de feuilles.
Ça c'est hyper important ce que tu dis, ne lavez pas les légumes.
Surtout pas
laver
pas d'eau,
les légumes.
Pas d'eau. Même si ça vous paraît humide,
Ça séchera déjà, quoi.
Ouais, ça va sécher et la terre va permettre de faire un peu l'effet tampon justement pour pas que une carotte va contaminer l'autre, parce que quand c'est lavé, c'est terrible. D'ailleurs, vous avez souvent remarqué quand vous achetez des carottes qui sont lavées en principe. Donc, il y en a qui me disent, mais pourquoi il y a des carottes non lavées dans le sable, quoi. Si vous prenez des carottes où il y a du sable dessus quand vous l'achetez et vous les lavez, autant d'acheter tout de suite des carottes lavées, quoi.
On est d'accord. Juste, voilà. Freddy nous dit, j'ai tout retiré cette semaine pour pas prendre de risques. Ouais. Comme j'ai pas le moyen de les conserver, bah, j'ai dû les éplucher, les couper en rondelles, plus de 5 kilos pour la congélation, et ce fut une sacrée corvée. Comment faire? Bah, tu viens de le dire il y a un instant. Et il posait la question si une couche de feuilles suffirait pour les conserver. Bah, oui. Si, à moins 1, moins 2, oui, mais pas moins 10, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Pour ça qu'il faut des grosses quantités de feuilles.
De feuilles.
Voilà, alors quand je dis grosses quantités, c'est au moins 50 à 60 cm de feuilles dessus, quoi.
Bon. Restez comme vous êtes, bravo à vous deux et merci pour les partages sur LinkedIn, j'ai réussi à le dire. À vendredi, et un mail beaucoup trop long, je m'en excuse, pas de souci Freddy, au contraire c'était un retour d'expérience très intéressant.
C'est ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices font des retours d'expérience.
C'est ça.
Comme le fait par exemple, quand on voit c'est pour ça que nous on conseille la revue Terre Vivante, les 4 saisons du jardinage, parce qu'en fin de compte, 100% presque des articles ils sont dedans, c'est des retours d'expérience. Pas forcément du site Terre Vivante, hein, qui existe, hein, bien sûr, que je vous invite à aller voir, mais des particuliers qui font leur expérimentation, et ça, c'est quand même le plus intéressant, quoi.
Et on essaie aussi de cultiver cette communauté, nous aussi. Bonjour à vous deux, nous dit Jérôme, mon voisin agriculteur me donne du lombricompost.
Oui.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment intéressant dans le cadre d'un potager ou d'un jardin général? Et si vous avez des conseils sur son utilisation, ses avantages et peut-être ses inconvénients, d'avance, merci pour toutes ces réponses, nos manques de connaissances. Continuez, vous nous régalez et enrichissez de votre savoir.
Alors justement, c'est intéressant cette question parce que pourquoi lombricompost et pas lombricompost? Quand vous achetez du compost de plateforme de compostage, il n'y a pas de lombric dedans.
C'est tellement chaud que ça ferait chips de...
Voilà, c'est ça, c'est fait très rapidement, 3 mois. C'est plutôt un compost bactérien, c'est plutôt l'action des bactéries qui l'a fait.
C'est ensemencé. Eric, je me suis posé une question, je ne sais pas si tu as la réponse.
Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais comme c'est fait toujours au même endroit... automatiquement, il y a une population bactérienne qui est présente, hein, c'est d'où l'intérêt.
Parce que
quand vous faites votre compost, de le faire toujours au même endroit, quoi.
C'est un compost dit quand même entre guillemets industriel, où on est sur des process quand même, parce qu'il faut que ça aille vite. C'est un compost qui est très carboné, qui est très noir. C'est noir.
Oui, parce que le principe c'est que ça va, voilà, il n'y a pas la décomposition qui est faite comme par les gros acteurs, quoi. Hein. Parce qu'au bout du jeu, pour que les bactéries interviennent, il faudrait que ça soit broyé par les acteurs du sol. Mais là, c'est plutôt bactérien, quoi. C'est pour ça que c'est aéré sans arrêt, quoi. Donc, le principe, c'est que le lombricompost, oui, c'est très bien. Le lombricompost, c'est un compost, je dirais, que vous-même, particulier, vous pouvez avoir quand vous avez plein de vers de compost, hein, ce qu'on appelle les vers épigés, les vers du pêcheur, les petits, là. Et ceux qui sont du lombricompostage, c'est fait uniquement, voilà, c'est des process aussi qui sont faits d'une manière maintenant à très grande échelle, hein. Vous pouvez avoir des usines à lombricompost, hein, c'est des palox qui sont l'un sur l'autre, hein, et qui sont bourrés de verre, hein, voilà, et c'est mangé. Et puis après, il y a une partie du compost, la partie du dessus qui est récupérée, la partie du dessous où il y a les vers, parce que les vers descendent, voilà, et qui est remis en fonction. Non, mais là, c'est le top, hein, parce qu'il faut savoir que le verre a une capacité justement de broyer la matière organique, hein, et le but du jeu, c'est dès que ça va passer dans son transit, hein, voilà. Il va y avoir l'action des bactéries qui va faire que il y a tous les mécanismes qui sont engendrés, donc c'est le top, hein, bien sûr.
Lombricompost qu'on peut effectivement aussi acheter déjà fait, hein, ou fabriquer, c'est là où je voulais en venir.
Oui, dans son compost, hein, si vous avez
ou dans son lombricomposteur.
Ouais, voilà, ou dans un lombricomposteur, mais vous n'en avez pas beaucoup. Mais par contre, alors il y a des gens qui me disent, oui, mais dans mon compostier, j'ai pas de petits vers. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Mais plus on aura des vers, mieux c'est.
Mieux c'est, voilà. On peut faire du lombricomposteur. Et alors, pareil, autre truc, on a des fois des clients qui nous achètent des vers. Parce qu'on vend des vers comme ça. Bon, le problème, c'est que si vos conditions ne sont pas bonnes, si votre truc est trop acide ou vous mettez que de la tonte de gazon, vos vers, ils vont se barrer.
Oui,
quoi,
c'est, hein, ça, voilà, c'est voilà. Pour ça. Donc, le temps de prendre une pelletée dans un tas de fumier où il y en a plein dedans, et
voilà,
puis vous le mettez.
C'est ce que je voulais dire.
Et une fois que vous ensemencez, il faut savoir que les vers, quand il n'y a plus rien à manger, ils vont où il y a à manger, quoi.
Ouais, ils vont se carapater. Donc, en plus, c'est pas donné quand même. Hein,
non.
Donc voilà, c'est
non,
pas.
Non, et puis il faut dire aux auditeurs, aux auditrices, que ça te demande beaucoup d'efforts de faire des vers, quoi.
C'est ça. Je ne suis pas poète.
Non.
On enchaîne ?
Oui, vas-y.
Chris de Nîmes. Bonjour, chers amis du jardin. J'ai pas ramassé toutes les patates cette année, hein, les pommes de terre. Celles-ci ont germé en terre septembre et ont fait des beaux plants. Est-ce qu'il est encore possible de les ramasser pour les consommer ou peut-on les laisser en terre et les récolter au fur et à mesure des besoins durant l'hiver ? Par avance, merci pour vos réponses et longue vie à votre super podcast.
Ouais, alors ça, Nîmes. On dit qu'il est pommes de terre patate, hein, c'est-à-dire qu'ils font la patate redonne de la patate. C'est pour ça que c'est important de bien connaître les variétés que l'on a.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est pour ça, entre les variétés qu'on va récolter très rapidement et ceux qu'on va laisser en terre, hein, voilà. N'oubliez pas que la meilleure conservation des pommes de terre est en terre, sauf que des patates qui poussent très rapidement ont tendance à repatater.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Donc, bien sûr, alors on peut les animer, à mon avis, on peut les laisser en terre, il n'y a pas de souci, ça va redonner des pommes de terre, sauf qu'il y en aura partout, quoi. Pas facile à gérer.
Donc attention à l'invention des patates, c'est ça ?
Bah voilà, parce qu'après il y aura plein de patates une à côté de l'autre qui seront trop serrées, quoi. Moi, ce que je ferais, c'est je ramasserais quand même grossièrement, encore un Nîmes là, à mon avis, ça doit être possible. Par contre, ne soyez pas dans un ramassage strict, laissez-en dans le sol, ça vous dérange pas, quoi.
Bon. Jérôme, à nouveau, merci pour votre super blog, c'est une vraie bible pour mon petit niveau. C'est une question en deux mails, pardon. Ma question, première année de production dans mon nouveau potager. Je récupère au printemps des pieds de tomates, des variétés anciennes et des tomates cerises. Cela a vraiment bien donné, mais les grosses variétés sont tombées malades assez vite. Et on m'a parlé du mildiou, il est près de Toulouse. J'ai fini par arracher les coupes, puis les couper en petits morceaux. On parle des tiges sèches. Ma question, faut-il brûler ces plants malades ? Oh là, malheureux, jamais.
Non, pas nécessaire, hein. De toute façon, vous n'avez pas le droit. Le principe, c'est que ces pieds de tomates, vous les mettez au pied d'autres plantes que sont le potager. Hein. Ça peut être au pied des
arbustes. On croise.
Voilà, on change d'espace. Hein.
Voilà, on change d'espace.
Oui, vous pouvez mettre au pied des petits fruits. Vous pouvez, ça pose pas de problème. Hein.
Marion, du côté de Dax. Bonjour à mes influenceurs préférés. Alors Marion, on dit plus influenceur, maintenant on dit quoi ? Créateur de contenu. Voilà.
Oh la vache.
Oh, mais nous on crée du contenu, enfin surtout toi Eric, tu crées du contenu. Toujours attentive à de bons conseils verdoyants, je me questionne sur la végétalisation de la façade. Nous sommes dans le sud-ouest, imaginons disposer d'une arche à l'entrée de notre potager qui s'appuierait sur la façade crépie à l'ouest. Nous voudrions y mettre une grimpante qui viendrait aussi s'étaler sur la façade et ajouter une vraie strate verticale pour la biodiversité et l'isolation. Eric, ça fait chemin, hein, tes idées.
Ouais, c'est bon.
La terre est plutôt sableuse et le climat chaud l'été, humide hors saison. Nous avons pensé simplement à du lierre grimpant ou au fruit de la passion ou encore à un rosier grimpant. Quel est votre avis ?
C'est en fonction du goût des gens. Hein. Tant que la façade, il y a quelque chose, mais... Moi, j'aime bien le rose. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout d'un seul coup. Je veux dire, un panachage est quand même plus joli. Donc, on sait qu'un rosier grimpant ne pourrait pas faire toute sa façade. Hein. C'est clair. Mais sur une zone qui vous paraît sympa, un peu plus le côté attrayant de la maison. Alors, en plus, si vous mettez des roses à senteur, c'est quand même... Parce que toutes les roses n'ont pas d'odeur. Hein. Voilà, des fois, on est un peu surpris, mais des fois, ça sent que dalle. Ouais. Donc là, choisissez une belle rosier liane, par exemple, hein, ou ça peut être aussi des rosiers vraiment à petites fleurs, hein, c'est-à-dire à fleurs simples. C'est moins joli quand c'est unique, mais comme il y a un maximum de fleurs, ben, l'ensemble fait que ça fait très, très, très beau, quoi. Donc là-dessus, c'est important de jouer sur plusieurs plantes grimpantes. Le lierre me va bien. Bah, surtout dans des situations qui sont plus au nord, parce que des fois au nord, bah, c'est difficile de mettre quelque chose, et donc bah, le lierre, lui, ça lui va très bien d'être au nord. Hein. Donc par exemple, bah, sur la façade nord, mettez plutôt, ou sur la zone qui est la moins, ensoleillée, bah, mettez plutôt du lierre, voilà. Donc ça sent plus, et tandis que les autres, hein, vous pouvez vous lâcher sur des variétés nourricières, comme le kiwi, le kiwai, la vigne. Attention, parce que voilà, il faut, c'est pas si facile que ça de le gérer. Des fois, c'est plus facile un kiwi, un kiwai. Et puis après, bien sûr, hein, vous pouvez mettre toutes les plantes grimpantes à fleurs, hein, possible, imaginable. Hein. Là, y a pas
Juste rapidement, le lierre a souvent mauvaise presse.
Oui,
parce
mais c'est
que
pas,
c'est voilà. Un peu la maison abandonnée, mais c'est quand même une sacrée réserve de biodiversité.
Oui, et puis c'est pratique. Hein, on s'en occupe pas trop. Hein, on vérifie simplement qu'il ne prend pas trop ses aises à des endroits un peu stratégiques, au coin de fenêtres, choses comme ça. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de se balader dans le quartier. J'ai souvent la meilleure des informations, c'est de se balader dans le quartier. et de, d'aller voir peut-être une maison, parce que des fois les maisons sont peut-être de même construction, voilà, avec les mêmes matériaux, de voir comment ça réagit avec le lierre, mais en principe ça pose pas trop de problèmes, quoi.
Bon.
Il y a aussi pas mal de plantes à fleurs, hein, qui sont la clématite, voilà, des choses qui peuvent être intéressantes, mais je trouve qu'un beau mélange, c'est pas mal. Ou une vigne vierge, hein, aussi. Hein.
Oui, parce que bon, le rosier, c'est très bien, ça sent, mais ça isole pas tellement. Là, ce que, Marion veut, c'est
voilà,
vraiment de la masse végétale.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Alors là, ouais. Voilà, le rosier, ça sera un peu quelque chose d'apparat.
C'est ça.
Et ce qui peut être intéressant avec des variétés qui perdent leurs feuilles, comme par exemple le kiwi, bon, bah voilà, ça permet de changer un peu de couleur. L'été, ça rafraîchit. L'hiver, bah, ça permet de profiter de l'ensemble des coups de soleil, des rayons du soleil au maximum. Donc voilà, jouer la mixité, hein, c'est quand même
bon. Si rien ne vaut, rien ne vaut.
Alors,
la
par contre,
diversité.
Les clématites, toutes les clématites que vous allez acheter, les petites, c'est pas ça qui va couvrir. Ça va être bien pour un pignon, ça va être bien pour une petite partie, mais ça va pas faire un ensemble complètement fou, quoi.
Voilà, bon. Voilà. Partie 2.
Oui.
En partie sud, justement, nous avons du goudron posé à même la terre sur une trentaine de mètres carrés, datant sûrement de la construction dans les années 90.
Ouais.
En dehors du fait que nous n'aimons absolument pas ce revêtement, il se fissure. Pensez-vous que ça soit réalisable d'en enlever une partie pour revégétaliser?
Ouais.
On a peur que le sol soit trop mauvais.
Non, en dessous. Non, faut oser l'enlever le goudron, voilà.
Ouais.
Il faut pas imaginer que le goudron qui a été posé dans les communes, enfin dans les maisons, soit le même que le goudron qui a été mis sur une autoroute, parce que là, le sol est travaillé, quoi.
En gros, tu dis quoi, c'est sur de la terre battue, on dégoudronne,
voilà,
et c'est bon.
C'est pas
quoi.
Très grave. Alors que l'autre, on a tellement mis d'autres choses, du concassé, surtout de récupération et compagnie, que là, il y a tellement des grosses épaisseurs pour qu'il y ait quand même une tenue du sol, hein, parce qu'il y a quand même de la voiture qui roule dessus.
D'accord.
Souvent, chez les particuliers, à moins que la personne qui était avant était très minutieuse et très pointilleuse, souvent, il y a le goudron, il y a un peu de choses au-dessous, mais pas grand-chose, donc ça vaut le coup de l'enlever, quoi.
Donc, on enlève, qu'est-ce qu'on met à la place, Eric ?
Là, le truc, c'est régénérer le sol, donc là, il faut faire appel quand même à des quantités de compost, par exemple du compost qu'on parlait de tout à l'heure, pour régénérer le sol, parce que le sol a été couvert pendant un bout de temps. Mais soyez surtout ambitieux dans le trou et dans le mélange que vous allez faire avec du compost, entre guillemets. Compost très 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 décomposé, hein, je rappelle, sinon ça sert à rien. Par contre, si vous avez pensé de faire un trou de 16 mètres cubes, pensez en réalité, faites le double, quoi, parce que ça vaut le coup de faire plus grand.
Pour terminer, quels seraient les types d'aménagements? Alors, tu disais compost, effectivement, mais alors ça dépend, Marion, décidément.
Ouais.
Si vous voulez rouler dessus avec un véhicule, parce que sinon, tu as des techniques, hein, c'est le couvre-sol, c'est du serre-polais, Eric.
Oui, voilà, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est simplement de renforcer sur le passage des roues. S'il y a une possibilité d'avoir une entrée droite et une sortie droite, hein, bien sûr, s'il faut faire des manœuvres, c'est plus compliqué.
Bien sûr.
Mais par contre, à la place du goudron, moi, c'est toujours ce que je voulais faire devant chez moi, parce que quand j'ai acheté la maison, la personne avait profité d'une utilisation de goudron dans la rue d'à côté pour récupérer du goudron. Voilà. Donc, c'est toujours un travail, hein, je comprends. Mais c'est sûr que si je faisais ça, simplement, moi, je mettrais le passage des roues, voire double passage, comme ça, c'est plus facile. Et le reste, je mettrais que du serre-polais, des choses comme ça, un peu sympa, quoi.
Et également mellifère et butinant, on va
oui
dire
c'est
ça,
ça,
comme
ouais,
ça.
Voilà. Et puis après il y a de la qui est millefeuille aussi, et même si vous n'allez pas très droit parce que vous avez fait la fête, même s'il y a un passage de roue, c'est écrasé, mais c'est pas grave, hein, ça va revenir, hein.
Ça évite de... Pour terminer, Johanna, bonjour Eric, bonjour Brice, je vis en Centre-Bretagne et la tempête Kiran a fait tomber beaucoup de chênes autour de moi,
malheureusement.
Je bûcheronne et je récupère énormément de branches fraîches que je vais broyer avec un broyeur professionnel. J'ai aussi la possibilité de récupérer du crottin de cheval sans paille.
Un mélangé, ouais.
Comme le chêne contient beaucoup de tanins, je pensais mélanger le broyat de chêne avec le crottin.
Ouais, parfait.
Pardon.
Ouais.
Pour équilibrer l'apport en carbone...
T'as un chêne dans la gorge, hein ?
J'ai un chêne, oui. Tant que c'est cool, chêne. Pour équilibrer l'apport en carbone et azote. Et composter le tout... quelques temps avant de l'épandre Qu'en pensez-vous? Et un grand merci pour votre réponse. Salutations hivernales.
Moi, je dis parfait.
On a tout bon?
Bah ouais, voilà, quand c'est bien, il n'y a pas besoin de dire autre chose. Hein.
On mélange, bon bah voilà.
Ouais, voilà, par contre, si vous faites un tas, faites-le le plus haut possible, le plus, enfin, je veux dire, pas trop étalé. Faites, voilà,
que ça se composte, c'est ça, Eric?
Voilà,
c'est,
voilà, et okay. Couvrez-le avec des feuilles ou de la paille ou quelque chose comme ça, de manière à lui mettre un manteau, quoi.
Bon. On va rajeunir, on va s'entretenir et on va se former. C'est la taille, ouais. La taille des arbres fruitiers, Eric, et c'est le dossier de la semaine.
Oui, c'est le dossier de la semaine. Ouais.
Juste avant, je rappelle à ceux qui veulent nous écrire, évidemment, contact@monjardinbio.com, pardon, c'était la forme, l'usage. C'est à toi. Explique-nous ce que tu veux nous faire faire avec nos
sédateurs. Alors, ce qui est important, c'est que c'est sûr qu'on vous parle des plantations, mais on vous parle aussi de la taille des arbres fruitiers. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, bon, des fois, l'année qui va suivre, c'est poussant, mais sans plus, surtout avec les années sèches qu'on a. Mais il faut savoir que peut-être qu'au bout de 2-3 ans, ça commence à bien pousser. Donc, si on a un arbre tige, c'est-à-dire un arbre de plein vent, avec que ça soit une demi-tige ou une haute tige, il ne faut pas oublier qu'il va falloir former la couronne pour avoir une forme. Donc, soit on a une forme en gobelet, donc ça veut dire vous avez un tronc et autour il y a des charpentières, ou une forme pyramidale par exemple, qui est plutôt, il y a un axe, mais autour de cet axe, il y a des charpentières. C'est la même chose que le gobelet, mais comme si vous aviez une cuillère dedans, toute droite. Hein. Et des fois, la forme pyramidale est assez intéressante parce que ça vous permet de reprendre un peu la forme naturelle d'un arbre. Alors, il y a des photos, hein, n'ayez pas peur, parce que c'est pas forcément facile de le donner à l'oral. Et là, je vais plutôt parler de la forme, la taille de plan de formation des formes, je dirais, en gobelet. C'est-à-dire des arbres donc, où il y a des charpentières autour. Ne faites surtout pas des fois ce qui est marqué dans les bouquins. C'est-à-dire de dire je privilégie que trois axes. Quand on est arboriculteur, quand on est une association d'arboriculteurs, qu'on est une association de vieux vergers et compagnie, ils le font souvent avec trois axes parce qu'ils passent leur temps dans leur verger. Ils connaissent bien, ils sont souvent présents. Ils disent souvent qu'ils ne travaillent pas trop dedans, mais en réalité, si, parce qu'ils sont tellement présents qu'en fin de compte, ils ont toujours une surveillance. Vous avez peut-être moins le temps. Donc, il faut savoir que si vous travaillez qu'avec trois axes, le gros problème, c'est que s'il y en a un qui casse par maladie ou soit par choc et compagnie, après, vous n'avez plus que deux branches et c'est plus compliqué pour donner un volume. Donc moi, je vous conseille, une fois que ça commence à bien pousser, ou si vous l'avez sélectionné dès le départ, de travailler avec 4, 5, voire 6, en sachant peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez en enlever une ou deux pour en rester que 4. L'idéal, c'est 4, c'est super, voire 5, ça ne pose pas de problème. Donc l'objectif, là, c'est de bien identifier les charpentières que vous voulez laisser, parce que les charpentières, c'est-à-dire les axes, les branches principales que vous avez laissées qui vont vers le ciel, les tiges dressées, seront les définitives pour l'arbre pendant sa durée de vie. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Donc, c'est pour ça que garder un certain nombre, mieux vaut en avoir une de plus. Comme ça, vous aurez encore le choix dans un an, deux ans, trois ans pour en enlever une, s'il y en a une de trop. Et ça vous permet de laisser un choix. Surtout les axes que vous allez laisser, donc ce qu'on appelle les charpentières, je conseille toujours de les laisser filer. Alors surtout quand on est sur du pépin, du pommier, du poirier. Bon, quand c'est du quetché, donc tout ce qui va être prunier, des fois, bon, on peut les rabattre. Par contre, il faut les rabattre sur un relais. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais couper une branche en hauteur sans avoir réfléchi sur quoi doit repousser. Parce qu'une branche doit toujours avoir une pointe. Des fois, la pointe, elle est présente. Donc, on fait ce qu'on appelle un relais. On coupe la pointe, mais sur une branche qui va vers l'extérieur. Ou soit, s'il n'y en a pas, vous pouvez couper. Mais par contre, il ne faut pas oublier au mois de mai-juin de trouver ce fameux relais et de le privilégier. Donc là, vous aurez quelques informations sur des formes plutôt en gobelet. Il y a quatre exemples. Comme ça, vous verrez un petit peu la forme. Même si ça peut paraître un peu bizarre au début sur la forme, ne vous inquiétez pas, une fois que les charpentières vont s'installer, c'est pas mal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la taille de fructification. C'est-à-dire qu'une fois que les arbres ont un peu d'âge, là, ils pensent qu'à une seule chose, c'est à produire du fruit. Et c'est là que souvent l'arboriculteur ou l'arboricultrice, le jardinier et la jardinière, sont un petit peu excessifs. Ils ont tendance à rabattre. Et comme ils rabattent de trop, des fois, il peut y avoir des gourmands qui poussent. Et donc là, vous verrez, il y a des schémas qui sont assez intéressants. Déjà, parce que c'est moi qui les a fait. Non, je plaisante, mais c'est...
Non, mais tu peux le dire. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais...
Et là, on a vu des cas concrets, vraiment, quand on a fait de la taille, c'est que la personne qui les a taillés, très sympa, mais un peu excitée du sécateur, hein, j'ai remarqué. Mais c'est bien, voilà, tant qu'elle s'énerve sur son arbre. Et le problème, c'est que comme elle a laissé des grosses zones de lumière dedans, ben, y a des branches qui ont poussé tout droit. Et comme ça n'a pas été retaillé tout de suite, ben, on avait ce qu'on avait, le problème des arbres dans les arbres. Donc, quand vous avez un arbre dans un arbre, souvent, ce qu'on dit, oh là là, je me fais avoir. Donc, je vais le couper à ras parce qu'il est trop grand. Et comme vous coupez à ras et comme l'appel de sève était à cet endroit très important, bah, si vous le coupez en plein hiver, en plus, au printemps, ça va à nouveau refaire un gourmand. Donc, il ne faut surtout pas les supprimer. Alors, vous pouvez en enlever quelques-uns s'il y a vraiment des excès. L'idéal, c'est de dire, je te fais comprendre que tu ne vas pas être un arbre, mais que tu vas être une charpentière. Et donc, on coupe toutes les branches du dessus, sauf une qui va servir de futur point. Donc, on va tailler le houppier pour en laisser qu'une. Donc, ça veut dire qu'il y aura une branche qu'on a laissée et on va les laisser partir sur un relais comme si on avait une pointe. Voilà. Ensuite, on me pose la question souvent, mais comment on va tailler le cerisier surtout sur les branches qui sont à plat. Les branches à plat, c'est celles qui vont produire du fruit. Et donc, l'objectif, c'est... il faut s'imaginer que quand on va tourner autour de l'arbre, parce que quand on va tailler un arbre fruitier, surtout en taille de fructification, il faut vraiment tourner bien autour de l'arbre pour bien identifier ce qu'il y a. Et donc, il faut imaginer que votre cerisier, par exemple, il a des mains qui se dirigent vers vous. Et ces mains, souvent, il y a 3, 4, 5, 6 branches qui se dirigent vers vous, mais il y en a souvent une qui est dessus et souvent, il y en a une qui est en dessous. Donc, l'objectif, c'est de mettre comme si vous aviez des mains à plat et d'enlever la branche qui va vers le dessus et la branche qui descend. Et vous coupez simplement ça. Et vous verrez, en faisant ceci, bah vous aurez des fruits de la partie la plus jeune, c'est-à-dire les rameaux les plus jeunes, hein, qui ont la deuxième année, vers le plus ancien. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir des cerises jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... alors là, je vous ai donné, hein, vous verrez, il y a un exemple sur la taille de cerisier, donc avec un arbre qui était avant et après. Et enfin, quand l'arbre commence à prendre un peu d'un certain âge, hein, surtout quand c'est sur un porte-graisse vigoureux, parce qu'il a un tronc entre demi-tige et tige, souvent ce qui se passe, il y a plein de branches qui sont à plat et qui retombent. Et plus les branches retombent, plus la production de fruits sur ces branches qui retombent sont des fruits qui sont, par exemple, pour des mirabelles, bah, elles sont vertes et c'est souvent ces mirabelles qui... sont présentes, mais qui ne mûrissent jamais. Et que quand on appuie dessus, on a l'impression d'appuyer sur une balle de mousse. Elles restent vertes, elles sont pas très bonnes. D'ailleurs, quand on est par exemple dans les pots de confiture, on dit « Oh, elles sont pas très belles. Donc, on va les faire en confiture. Bah, » c'est celles qui vont rester un peu vertes dans les pots de confiture. Donc, celles-ci, bah, le but du jeu, toutes les branches qui retombent, il faut les couper sur un relais de la branche à plat qui va vers le dessus. Comme ça, ça permet de remonter la branche, comme on dit. Et ce qu'il faut faire dans ce type d'arbre au niveau du rajeunissement, c'est toutes les branches qui sont l'une sur l'autre, donc qui se superposent, c'est d'en garder une, on garde la plus placée. Est-ce qu'il faut garder la branche du dessus ou celle qui est en dessous? Non, ne cherchez pas, surtout quand elles sont bien l'une sur l'autre, c'est l'une, c'est fromage ou dessert. Hein. Et franchement, il n'y a pas celle du dessus ou celle du dessous, c'est celle qui est la plus belle, celle qui est la plus à plat. Celle qui est qui a plus de bourgeons à fruits dessus et de rameaux à fruits, et donc comme ça vous gardez la plus intéressante. Et c'est pareil pour des branches qui se croisent, il faut surtout pas que de branches se croisent. Et enfin, ça, la partie haute, souvent bah, ça en finit plus, ça file vers le haut, c'est moche, et donc surtout ne coupez pas, ne diminuez pas la hauteur comme ça. Il faut la diminuer sur une branche plus jeune qui va remplacer la pointe, c'est-à-dire la pointe, elle va être remplacée vers une branche qui va vers l'extérieur, mais qui est le plus droit possible. Il ne faut pas qu'elle soit à plat, il faut vraiment que cette pointe soit remplacée par une autre pointe, qui est souvent plus basse, et ce qui va permettre d'éclairer, l'arbre, donc ça va favoriser le repercement. Il y aura peut-être des gourmands, mais on fera comme dans le cerisier tout à l'heure, je vous expliquais, les gourmands, ben, on les simplifiera de manière qu'on lui fasse comprendre que c'est une branche et non pas un arbre dans un arbre. Et là, entre les trois étapes donc, de la formation en passant par la fructification jusqu'au rajeunissement, ben, ça vous permet de maintenir vos arbres en production normale. Et n'oubliez pas que le fruit le plus intéressant est sur nouveau bois et sur du bois qui est le plus proche des grosses sections. C'est ça qui est important parce que si vous récoltez les fruits qui sont très 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 loin des grosses structures, bah souvent bah ils vont être enfouis dans les autres branches, ils vont être moins alimentés en sève, donc ils seront moins bons.
Voilà. Eric, question matérielle, oui. Parce que vous irez voir évidemment les photos, on ouais. voit avec des perches, on ouais. voit avec des échenoirs, ouais. on voit. C'est quoi alors pour une personne qui a 2-3 arbres, est-ce que ça vaut la peine de s'équiper ou,
alors,
ou, bon, alors on a des voisins, on peut acheter à plusieurs, etc. bien sûr, mais
ouais.
c'est quoi le minimum, bah, j'allais dire, de base.
Alors déjà, par exemple, si vous avez un verger piéton, c'est-à-dire si vous avez vraiment des petits arbres, voilà, et que vous récoltez fruitiers et compagnie. Un sécateur et une scie arboricole, c'est-à-dire celle qui, c'est pas une scie égoïne, mais c'est l'autre scie qui s'est à l'envers par rapport à la scie égoïne, c'est nécessaire. Dès que vous avez des grands arbres,
c'est la perche.
Il faut la perche.
Ok.
Sauf, vous pouvez le faire. Des fois, c'est super intéressant de le faire à l'échelle, quoi. Hein. Mais faut un
échelle. Tant qu'on tombe pas.
Voilà, c'est ça. Déjà, quand vous le faites, faites-le à deux, ça c'est clair. Et puis, tout le monde ne monte pas à l'échelle. Voilà. Et quand vous avez une échelle, il faut que ça soit une échelle que vous pouvez mettre en deux. Non pas forcément adossée dans l'arbre, mais que vous puissiez mettre, je ne sais pas comment on peut dire, en V, là, comment on dit ça.
Mm-hmm. Oui, en écarté comme ça.
En écarté, parce que comme ça, ça vous permet de vous mettre tout en haut, de part et d'autre, mais ça, tout le monde ne le fait pas. Là, vous pouvez utiliser le sécateur et là, on fait quelque chose de plus finement. Mais plus on est dans de la tige, demi-tige ou haute tige, moins on va utiliser le petit sécateur. On va surtout utiliser la perche avec une scie et les chenilloirs. Voilà. Franchement, alors c'est sûr que ça a un coût, hein, surtout que là, les perches ont doublé, le matériel a doublé en peu de temps. Et c'est un véritable scandale, hein, je le dis. Hein, parce que je trouve qu'ils sont de moins bonne qualité. Pourtant, moi, je prends que de la qualité, hein, franchement. Même ça, je trouve de moins bonne qualité. Et je sais pas si la guerre ici et là... fait que ça doit, alors moi je veux bien que ça prenne 10%, mais quand ça double ou des prix 30, 40, 50%, je trouve ça un petit peu lamentable. Voilà, après ça c'est un avis. Voilà.
On est sur ces prix-là, alors je reprends la parole du distributeur que je suis, clairement. Oui, ça a pris ça, quoi. On est entre 25 et 30, 35%.
Ouais, voilà.
Là, chez Baco, on travaille avec Baco, nous, sur des produits fabriqués en France. Mais les prix, c'est... Enfin, je veux dire, franchement, t'offres un sécateur, t'as fait Noël, quoi. Hein.
Ah non, mais...
C'est hallucinant.
Non, mais je veux dire...
Mais d'un autre côté, on est obligé de répercuter les hausses
en tant que distributeur,
parce que c'est pas possible.
Non, mais justement, moi, c'est les prix... moi, je connais distributeurs, les prix, des fabricants.
Ouais.
On m'a montré des catalogues, prix fabricant, j'ai halluciné.
C'est prohibitif. On est tout à fait d'accord.
Alors, peut-être...
C'est devenu du luxe.
Exactement. Alors c'est pour ça, dire aujourd'hui, il y a 3-4 ans, je crois que il y a 3 ans, le podcast, j'ai dit, mais équipez-vous, hein, c'est pratique et tout ça. Aujourd'hui, j'ai du mal parce que quand je vois le prix, il y a pour 200 balles, je dirais, une perche équipée, donc c'est quand même une somme. Alors bien sûr, ça va durer tout le temps que vous avez le verger. Hein. Après, de le faire entre les voisins, je trouve ça génial, mais est-ce qu'on peut le faire, je sais pas. Voilà. Mais de toute façon, il va falloir trouver dans les villages, si on veut que les villages soient on les maintienne nourriciers ou qu'ils deviennent de plus en plus nourriciers, il va falloir qu'on trouve un système de prêt. Voilà. En sachant que c'est un matériel qui n'est pas dangereux. C'est-à-dire que je suis contre des fois le prêt de matériel électrique.
Ouais, la tronçonneuse. Ouais.
Parce que c'est particulier. Et je trouve que c'est bien de louer, entre guillemets, la personne qui l'a, enfin, qui l'utilise tout le temps. Mais là, les perches, moi, je ne taille jamais, parce que je n'ai pas le droit, dans ces situations-là, je ne taille jamais avec des outils à moteur, pour faire simple. Ça va très, très bien. Je veux dire, on est bien bronzé sous le coup parce qu'on lève la tête. On a un peu mal au bras, mais c'est pas grave. Mais franchement, faites déjà ça, c'est déjà pas mal. Avec aussi le point qui est important, c'est que tout ce qui va être un peu particulier, c'est-à-dire des branches qui ont les feuilles jaunissantes, toutes les branches qui sont demi-mortes, pas complètement mortes, mais demi-mortes, enlevez-les plutôt quand il y a les feuilles. C'est beaucoup plus simple à voir. Là, on a eu des cas, par exemple, donc il y a 10 jours. Le problème, c'est est-ce que cette branche, elle est morte ou pas morte, quoi. Alors que quand elle est en feuilles, c'est des fois beaucoup plus simple parce que si les feuilles sont desséchées, donc là, il n'y a pas de problème. Et si les feuilles ont un autre vert que l'ensemble de l'arbre, là aussi, de toute façon, cette branche-là ne va pas revenir. Donc, il faut mieux l'enlever tout de suite. Et ça permet, grâce à des actions, je dirais, estivales, qu'on appelle la taille en verre, même si on ne fait pas une vraie taille en verre, on peut faire déjà une taille de nettoyage de ce qui est malade ou ce qui est demi-malade.
Voilà. Sachant que la taille de sécurisation, elle prime sur tout. Eric, tu le dis suffisamment. C'est-à-dire des gens, des fois, des personnes hésitent à couper, hésitent à tailler des choses. Couper. Toi, tu dis voilà, là en plus, il y a des épisodes neigeux dans certaines contrées. Mmh. On n'hésite pas, on coupe.
Oui, oui, il faut couper. De toute façon, et même dans du végétal, je dirais du végétal d'ornement.
Ouais.
Quand il y a des autres feuilles vertes. Voilà, un autre vert qui sont plutôt jaunissants. Bien sûr, si c'est tout l'arbre qui est comme ça, c'est autre chose. Là. Mais si c'est une branche, enlevez-la. De toute façon, ça ne va pas tenir et peut-être que le coup de sécateur, le coup de scie va vous permettre justement de limiter la prolifération d'une maladie ou de quelque chose. Donc, voilà.
Pardon, je viens de découvrir le faux dicton du jour. Eric ?
Ouais.
C'est... Est-ce qu'on avait le tour du verger?
Oui, alors que les gens n'aient pas peur, parce qu'en podcast, c'est pas facile de l'expliquer.
Ouais, rendez-vous sur le blog.
Voilà, le blog, il y a des photos, il y a un peu de texte aussi pour expliquer. Voilà, ça donne. Sachez que vous ne pourrez pas être un professionnel de la taille, même en assistant à un cours de taille. moi, je vois, je fais des cours de taille avec des agents, mais ils taillent. Donc, au bout de deux jours, c'est déjà mieux. Donc, allez voir les arboriculteurs. Là, ça commence en novembre, décembre, voilà, jusqu'au mois de mars. Inscrivez-vous. Même, souvent, c'est les cours de taille qui sont gratuits. D'ailleurs, les cours de taille sont gratuits. Je vous invite aussi à payer votre cotisation, même si les cours de taille sont gratuits, parce que ça va permettre à ces associations-là d'envoyer leurs moniteurs se former et compagnie. Parce qu'en Alsace, on appelle ça des moniteurs. Comme ça, ça permet d'avoir toujours des gens à vous montrer quelque chose, parce que ça, c'est super important. Donc voilà, c'est pour le petit coup de pub pour les associations locales qui travaillent dans ce domaine, quoi.
Bien, Eric, on va passer au faux dicton du jour qui est alors, très drôle.
Alors bien sûr, là, il faut connaître un peu la cuisine asiatique. le faux dicton, c'est « si pas de taille, le jardinier espère du riz au jardin ». Faut pas oublier que le pad thai, c'est le plat traditionnel thaïlandais.
C'est ça, pour ceux qui ont la référence, effectivement. Non, mais écrit, c'est très drôle parce que tu l'as écrit si pas de thai.
Oui, si pas de thai, si le pas jardinier de thai, espère du riz au jardin.
Voilà, donc vous retrouverez bientôt tous ces faux dictons dans un seul et même ouvrage, je pense. Eric, on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Bien sûr, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur Instagram, vous nous suivez sur le blog, vous vous abonnez à notre newsletter que vous recevez tous les vendredis vers 17h, à la semaine prochaine. Mais avant ça, le mot de la fin.
Alors là, le mot de la fin, c'est ce qui est important, c'est que là, c'est vraiment rassembler tous les déchets possibles, imaginables, les déchets verts. Parce que comme là, on a presque 15 jours à 3 semaines de retard par rapport aux autres années, même à l'année dernière, les déchets sont plus nombreux à cette époque, les déchets de géranium, mais il y en a les tomates aussi. Récupérer des déchets partout, mettez-les en tas s'il le faut, si vous n'avez pas l'utilisation tout de suite, mais n'allez pas forcément tout de suite à la déchetterie, parce que comme bientôt c'est Noël, il y a une espèce de trêve, on ne fait plus rien au jardin quand Noël approche là. Mais reprenez au mois de janvier si vous voulez, mais économisez les efforts des déchetteries pour mettre vos déchets de taille, vos déchets de gazon, vos déchets de tout ce que vous voulez en tas, quoi, pour l'utilisation après.
Et les utiliser, voire ces échanger, évidemment, oui. Tu disais, hein, ceux qui n'aiment pas les feuilles, vous les ramassez à la limite et puis vous filez un coup de main au voisin et vous récupérez en tout cas cette ressource qu'est les feuilles. On peut faire du terreau de feuilles, on peut pailler, on peut pailler son jardin, on peut pailler sa serre. Enfin bref, on donne toutes les semaines évidemment de très nombreuses utilisations de ces feuilles, mais n'hésitez surtout pas.
C'est ça, tout à fait.
Et on va se dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.